Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
Chacun son charisme ou son talent, écrivait Saint-Paul. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Vous avez reconnu la lettre aux Corinthiens. Oui, à chacun son talent et le vôtre, Patrick Lang, de la Compagnie de Jésus. Jésus s'exprime particulièrement dans la célébration des mariages, la préparation des fiancés en vue du sacrement qui les unira pour la vie. Combien de mariages vous avez célébré?
Un peu plus de 300.
Bon, ben c'est pas mal. Vous préparez au mariage de jeunes couples par séance de 2 heures, entre 1 et 10 séances, c'est bien ça? Et c'est vous qui faites durer le plaisir ou c'est une demande du couple?
C'est un contrat entre le couple et moi. En fait, c'est plutôt entre 6 et 10 que... Le 1 minimum est rarissime.
Et c'est vous qui déclenchez le truc en disant « Maintenant, vous êtes mûr, on peut y aller ?»
Non, c'est eux qui ont l'initiative de se marier. Je ne vais pas les pousser au mariage. Quand ils viennent me voir, je leur propose un chemin exigeant.
Ouais.
Donc, un minimum de 6 rencontres, de 2 heures. Et je suis étonné qu'ils accueillent cette proposition avec un cœur très, très généreux. Ils ont le sentiment que passer une douzaine ou une vingtaine d'heures à se préparer à la vie conjugale, c'est pas simplement au mariage, est important.
Alors, en 6 chapitres, les préliminaires du mariage, les fondamentaux, l'enjeu majeur réapprendre à aimer, la vie conjugale à l'épreuve du quotidien, la sagesse du couple, et puis si nous sommes baptisés. Mais alors, la première question, c'est le mariage est-il un sacrement? Et ça, vous en parlez vers la fin du livre, et pas au début, pour nous dire « c'est un sacrement, c'est sérieux, je vais vous montrer comment s'y préparer ». Là, c'est vraiment à la fin du livre où vous nous dites « ben voilà, c'est un sacrement ».
Je crois que ce que la tradition chrétienne a à dire sur le mariage, c'est, je dirais, la vérité de notre humanité. Ce ne sont pas les propos d'une secte très particulière, mais c'est ce qui peut rendre... je dirais le couple heureux et voilà.
Alors c'est un guide pour nous apprendre, la maquette est assez bien faite puisque nous avons à la fois un contenu spirituel, nous avons des encadrés avec des exemples et puis nous avons des encadrés avec un peu comme des fiches cuisine, c'est-à-dire quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser et à quel moment dans le couple.
Oui, comme des fiches cuisine, c'était pas vraiment mon propos.
Non, mais ce sont les questions pour un dialogue.
C'est-à-dire
qu'il y a une méthodologie que vous apportez dans votre livre, dans votre guide, où finalement on prend un peu toutes ces questions pour un dialogue et ça vaut peut-être le coup de s'y pencher.
Oui, j'ai voulu faire une présentation qui respecte profondément la liberté des futurs conjoints.
Mm-hmm.
Donc, je leur propose des réflexions. Je ne veux en aucune manière qu'ils aient le sentiment qu'on puisse leur imposer quelque chose. Pour une raison très simple, d'ailleurs, nous, Français, de manière particulière, et l'homme, de manière générale, a horreur qu'on essaye de lui imposer quelque chose. Donc, je propose des réflexions, je propose des questions, je propose des approfondissements, et chacun peut recevoir, aller jusqu'au bout de la présentation ou s'arrêter en cours de route. Le livre, ça s'adresse pas simplement aux catholiques, ni même aux chrétiens. D'ailleurs, il y a de plus en plus de couples où l'un est enraciné dans la foi et l'autre pas. Donc il faut que les deux puissent entendre des propositions. Voilà, je crois qu'il y a une vraie pédagogie derrière.
Oui, puis pour le jeune prêtre qui débarque dans la vie, dans la vie de prêtre, qui n'a pas forcément votre expérience humaine, c'est pas mal d'avoir ce guide pour pouvoir préparer aussi à des jeunes fiancés au mariage.
Ah oui, j'ai été très touché qu'un certain nombre de mes confrères se soient mis à lire ce livre et à s'en servir. Il faut reconnaître que entre jésuites, nous ne nous précipitons pas sur les ouvrages que nos confrères ont écrits, sur les grandes valeurs, mais pas toujours. Mon premier livre n'a pas été beaucoup lu par mes confrères, tandis que celui-ci, ils se sont précipités.
C'est effectivement. Alors, moi aussi, je fais des préparations au mariage. Effectivement, votre livre est très... très utile, parce que, c'est ça la caractéristique, tu l'as déjà dit Christophe, c'est un livre d'expérience, c'est un livre qui est manifestement est le fruit de vraiment beaucoup de rencontres.
De nombreuses rencontres.
Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie pédagogie, parce que même les questions qui sont posées, il y en a beaucoup, moi c'était la surprise un peu devant le livre, à chaque fois, les questions qui sont proposées aux fiancés, il y en a énormément, et on voit bien que c'est les questions qui sont venues déjà d'entretien avec, oui. avec les... Et alors, juste, bon, on y reviendra, mais c'est vrai que, vous dites ça à un moment, il y a de plus en plus de non-chrétiens, non-catholiques, qui viennent demander à l'Église, en fait, de les aider à préparer le mariage. C'est un peu surprenant, peut-être, ça.
Oui, c'est surprenant. Ça s'est présenté d'abord au Japon. Et puis, ça se développe. Je crois que dans ce domaine, l'Église garde une certaine confiance. Je le dis au début du livre, la fidélité est désirée par la quasi-totalité des couples qui se marient. Et en même temps, les jeunes vivent dans un monde qui est extrêmement instable, où sont mis en avant les échecs, qui pour le reconnaître sont nombreux, et ils sont en recherche d'une sagesse qui puisse les aider à fonder leur couple, qui les rassure aussi sur l'avenir. Alors je crois qu'il ne faut pas trop rassurer non plus, parce que le pape François insiste beaucoup dans Amoris Laetitia sur ce point. J'ai peut-être pas assez insisté dans ce livre sur le fait que l'aventure conjugale est une aventure difficile. Et je crois qu'il ne faut pas le cacher.
Alors, mais effectivement, il y a, en dehors de l'Église catholique, peut-être justement les protestants font les choses, mais en dehors des chrétiens, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où on propose aux gens de préparer leur mariage? Cette pédagogie dont on parle là, elle est un peu une espèce d'originalité des chrétiens qui justement essaient de creuser la réalité humaine du mariage et d'en faire un sacrement.
Oui. Alors pourquoi justement? Pourquoi cette sagesse? C'est parce qu'il ne faut pas rigoler, c'est-à-dire que le mariage est un sacrement depuis le Concile de Trente. Alors, vous, Patrick Lang, vous l'écrivez de façon extrêmement, extrêmement forte, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est à la source, la présence de Dieu dans la relation introduit un tiers transcendant, non seulement témoin source, mais aussi garant de l'amour des époux. Alors là on ne blague plus, parce que c'est une question de présence réelle.
Oui, je ne sais pas si... Oui, d'une certaine manière...
La présence réelle de Dieu au sein du couple.
Je crois de fait que pour un chrétien convaincu, l'amour qu'il vit conjugalement, il le reçoit de Dieu, et Dieu est amour, et c'est une participation à l'amour de Dieu.
C'est donc... Mais vous dites que le couple doit rendre compte à Dieu de ce qui lui a été donné, hein, c'est page 191, par le sacrement, oui. Les époux acceptent de rendre compte à Dieu de la mission reçue. C'est quand même très très important cette histoire.
Ah ben je le crois, ce n'est pas... ce marier n'est pas une plaisanterie.
Non, nous sommes d'accord.
Christophe Maury.
Nous sommes d'accord.
oui, mais je crois que c'est important. Il ne s'agit pas de faire peur, je ne menace pas de l'enfer.
Non. C'est
passage.
Plutôt bienveillant, hein, il faut le dire. C'est un livre très bienveillant.
Mais je crois de fait que se marier, c'est assumer une responsabilité devant l'autre, devant ses enfants et devant Dieu. Je te reçois comme époux. Je te reçois de qui ? Je te reçois de Dieu. Il y a quelque chose de très beau. Dieu confie un être. Voilà, je te confie cet homme, ce jeune homme. C'est ce que j'ai de plus précieux. Je te confie cette jeune fille. C'est ce que j'ai de plus précieux. Pour que vous aimiez, pour que vous vous épanouissiez, pour que vous réussissiez ensemble une aventure.
S'enrichir du don de l'autre, vous avez tout un chapitre dessus qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours subir en disant je donne tout, je donne tout, je donne tout, et puis ne pas sentir de répondant de la part de l'autre. C'est-à-dire que là, dans votre livre, Patrick Lang, le guide pour préparer son mariage, où ce qui est très bien pour parfaire sa vie conjugale, c'est-à-dire que on n'est pas dans un mode d'emploi de colocation.
Non.
Alors, je reviens sur vous disiez la difficulté.
Quelle est la pointe de votre question, Christophe Morel?
Vous disiez la difficulté. Le couple, je vous cite, le couple avant de vivre le mariage pratiquait la régate dans le golfe du Morbihan à travers le sacrement de mariage. Il s'élance pour faire le tour du monde à la voile, connaître tout de cette aventure, les vents alizés, les cinquièmes hurlants, les soixantièmes rugissants. Il ne joue plus dans la même cour. Les paramètres ont changé. Et trois ou quatre fois, dans votre texte, vous dites qu'il y a des couples qui arrivent à bon port. Qu'est-ce que c'est que le bon port pour vous ?
Alors, le bon port, c'est vivre les dernières années de sa vie dans une joie réciproque, dans un soutien réciproque, et pouvoir voir les fruits de l'amour dans des enfants, des petits-enfants. Oui, je crois que cela a un sens profond. Je crois qu'on conçoit une vraie joie quand on voit un vieux couple qui s'aime, n'est-ce pas ? Et les jeunes couples, ils sont d'ailleurs plus ou moins jeunes, hein, ils sont entre 25 et 35 ans.
Oui, ça change un peu, ça.
Évoquent souvent le visage de leurs grands-parents, n'est-ce pas ? Des grands-parents qui s'aiment. Et ça leur donne une confiance. Je crois que c'est ça. Et un couple réussi, c'est un couple qui, au terme de sa vie, a renouvelé sans cesse la relation et constitue un véritable témoignage pour la jeune génération. C'est pas toujours le cas.
Au centre de l'amour, au centre du couple, il y a la joie. Vous insistez beaucoup sur ce point. Quelle est-elle, cette joie ?
Ah ben je crois que la joie est voulue par le Christ. Je veux que vous ayez ma joie et que vous l'ayez en plénitude. La joie peut s'accompagner de beaucoup de peine, mais elle est à l'opposé de la tristesse. Je crois que la tristesse, en dehors de la tristesse pathologique, je dirais de la dépression, est souvent de l'ordre du côté du péché, d'une certaine manière. Il y a de la réaction à des événements extrêmement douloureux, mais nous sommes faits pour la joie, et je crois que il y a à la fois une joie naturelle, je dirais, et je crois que c'est très important de la cultiver.
Oui.
Moi, j'ai vécu dans une famille où on cultivait la joie, n'est-ce pas ? L'été, on prenait l'apéritif sur la terrasse, il y avait souvent des fêtes, il y avait des repas améliorés, il y avait des gâteaux.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre que le couple doit vraiment célébrer cette joie. Donc on célèbre le dimanche, on célèbre les fêtes religieuses, et il y en a quand même beaucoup. On est à la conversion de Saint-Paul aujourd'hui, donc on peut encore. On n'a pas besoin de citer la lettre aux Corinthiens comme j'ai fait en début d'émission. Mais et vous insistez bien sur cette notion de joie célébrée au sein du couple et de joie partagée.
Oui.
Et ça, la notion de partage est extrêmement claire dans, je crois que c'est le chapitre 4 ou 5 de votre livre, où le couple que vous avez marié, ben, il est quand même appelé à donner.
Oui, alors, bien sûr.
Il n'est pas recentré sur lui-même.
Non. encore que je sois bien remarqué, je ne passe pas le don, je dirais, en premier dans l'apprentissage de l'amour. Je passe d'abord le fait de demander, de prier l'autre. Je crois que aimer, c'est reconnaître une certaine pauvreté et un besoin de l'autre, un besoin de soutien, un besoin de la tendresse, un besoin de l'écoute, etc. Et donc, la prière, la demande, me paraît être une attitude très fondamentale de l'amour, opposée à la prédation, n'est-ce pas, à celui qui prend. Bon. Et puis, la deuxième dimension, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas. Je crois que l'amour se nourrit de reconnaissance. Nous sommes dans
de l'expression de cette reconnaissance.
De l'expression de cette reconnaissance.
Aussi, hein, c'est très important. Tout on ne fait pas. C'est pas toujours si facile que ça de parler, même avec son conjoint, de l'amour. Et en fait, c'est très très important d'exprimer régulièrement combien on est heureux d'avoir.
Alors, il y a deux mots forts sous la plume de Patrick Lang dans ce guide pour préparer son mariage, publié aux éditions Jésuites. Il y a deux mots forts, c'est délicatesse et tendresse. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-François Rode, qui reviennent presque à tous les chapitres. Hein. C'est-à-dire que la façon dont on pose des questions, mais ça, je pense que Marie-Ange de Montesquieu vous interrogera là-dessus sur le côté très pratique dans son émission En quête de sens. Je préfère qu'on reste plutôt sur la dimension spirituelle, mais il n'empêche que ces deux mots de délicatesse et de tendresse viennent rythmer vos pages. Et c'est pour vous Patrick Lang, c'est pour vous une condition sine qua non ou juste une expression ?
Ah, c'est plus qu'une expression. Je m'amuse pas dans ce livre, je suis sérieux. je crois que. Je cite un vieux jésuite qui dit « Depuis qu'on a remplacé la politesse par l'amour, on y a beaucoup perdu. » Par la délicatesse, la politesse...
C'est la belle formule.
Je trouve que évidemment, c'est une manière de dire que...
Rapprochez-vous du micro.
Que l'amour sans délicatesse, l'amour grossier, est un amour très dévalué. Et puis, je crois que la tendresse, la douceur. On vit quand même dans un monde de brutes, n'est-ce pas ? Et il est bon que le couple soit un lieu qui soit en contrepoint d'un monde qui est quand même souvent dur. J'étais hier avec un groupe, d'ailleurs, que mon cher Christophe, vous connaissez bien, et nous lisions le chapitre 10 et le chapitre 11. Du livre, n'est-ce pas ? Et l'un d'entre eux disait, je prends conscience qu'il est difficile que lorsque je rentre du bureau, de la vie professionnelle, je change de ton par rapport à mon épouse. Mais c'est essentiel, disait-il. Mais c'est pas une évidence. Et la tendresse, la délicatesse, c'est ce changement de ton par rapport à un monde professionnel où tout est rapidité, où on donne des ordres, etc.
À quoi reconnaît-on l'amour ? Pose Saint Jean dans son deuxième épître, il répond à la paix qu'il nous donne. Oui. Donc c'est pour la paix des ménages que vous avez écrit ce livre ?
Je crois que je crois que la paix. La paix, nous la cherchons tous, et en particulier, on l'espère dans le couple.
Jean-François Rode.
Vous avez déjà répondu à beaucoup à la question, mais j'avais envie de vous poser tout simplement cette question-là. Après toutes ces expériences, toutes ces rencontres de couple, toute cette écriture de livres, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir cette aventure du couple ?
C'est une question difficile, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un point qui soit plus important. Je l'ai écrit en particulier pour rajouter des chapitres, des thèmes que je n'avais pas le temps d'aborder dans les présentations. Mais, par exemple, j'ai dit que notre regard sur le monde est important. Si on a un regard pessimiste sur le monde, sur la vie, etc. Si on passe son temps dans la vie conjugale, à se plaindre, de ce qui se passe, du gouvernement, de l'évolution de la société, etc. Mais c'est insupportable, c'est d'une tristesse formidable.
Si l'autre est le paratonnerre de nos ennuis, alors là, c'est terrible.
Ah oui. Bon, par exemple, ce point me paraît important.
Bien sûr. Oui, bien sûr.
Le pardon me paraît important, parce que l'amour n'est jamais parfait. La qualité de la communication. Pour moi, tout est important.
D'accord. Finalement. Alors, je pose la question dans l'autre sens. Que vous, avez, vous dites que dans votre, que les couples que vous avez accompagnés sont quand même restés en fait ensemble. Beaucoup ont réussi l'aventure en proportion plus large que les statistiques générales. Oui. Mais vous dites quand même qu'il y a 15% des couples qui ont échoué. Alors, à la question un peu à l'inverse, qu'est-ce qui a fait échouer ces couples en priorité? Qu'est-ce qui est l'obstacle majeur?
Je pense que c'était qu'il y avait des fragilités de départ pour la plupart des couples. Il y a un point, par exemple, j'ai été très frappé que des jeunes gens que j'avais connus, élèves, étudiants, qui étaient menteurs, ont pratiquement tous divorcé. Si on n'a pas un certain type de rapport à la vérité, eh bien, il y a une fragilité de base du couple.
Jean-François, vous avez des livres à nous présenter,
oui,
puisque nous arrivons en fin d'émission.
Alors, je suis un peu dans la continuité de ce que nous sommes en train de discuter avec le père Patrick Lang. C'est un livre de Denis Moreau qui s'appelle « Pour la vie », point d'interrogation, avec comme sous-titre « Court traité du mariage et des séparations ». Et c'est un livre que j'aime beaucoup, j'estime beaucoup Denis Moreau, qui est un philosophe, professeur à Nantes, un spécialiste de Descartes, de Malebranche, la philosophie classique, mais c'est un homme qui a un cateau engagé, qui s'est dit, bon, bah, puisque j'ai une plume acérée et expérimentée, eh bien je vais la mettre au service de la présentation un peu de la foi, la présentation un peu de la... Alors là, il est lui-même marié, il a des enfants, ça, et il a essayé de faire un traité tel que lui le sentait, à partir de sa propre expérience.
Traité sur le mariage, comme Léon Blum.
Et en fait, traité... alors je préviens tout le monde, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il commence par parler de tous les échecs de ses amis. Il dit, j'ai vu tellement de couples, j'ai été témoin, j'ai vu qu'ils se mariaient, je trouvais ça sérieux, j'étais... heureux comme tout pour eux, c'était un bonheur. Et puis tout d'un coup, quelques années après, ça casse. Il a essayé de comprendre pourquoi. Et alors il explique un peu ça, et puis il explique aussi, c'est quoi un peu les recettes, si on peut dire, de cette aventure, d'un point de vue chrétien. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas toujours abordé aussi, moi je crois que la demande, oui, je vais vite, la demande sur le sacrement, c'est aussi une aide. Les gens ont envie de recevoir la grâce du Seigneur pour justement vivre cette aventure.
Certainement.
Mais je vous signale que ce livre-là est très, très facile à lire, parce qu'il écrit bien Denis Moreau, de façon avec beaucoup de verve. Ça s'appelle « Pour la vie », point d'interrogation, « Court traité du mariage et des séparations », et c'est en point sagesse. Et puis, j'ai encore une minute pour parler d'un livre dont il faudrait parler beaucoup plus, de Pierre Manan, « Pascal et la proposition chrétienne », c'est un essai qui est paru chez Grasset, et qui part de l'idée que aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de refoulé dans la civilisation moderne, c'est qu'on ne veut plus parler de la question de Dieu, et en fait, on y pense tout le temps, et elle est toujours là. Et il essaie de reparler de la proposition chrétienne en prenant un des plus grands témoins de toute notre histoire, qui est Pascal. Donc ce n'est pas une étude de plus sur Pascal, mais c'est à partir de Pascal, une position à nouveau de la question de Dieu. Magnifique livre, un livre de culture, un livre d'intelligence qui peut aider beaucoup de monde.
Merci.
C'est la proposition chrétienne. Je le montre à la caméra.
Oui, Grasset. C'est Grasset. Merci Jean-François Rode. Merci à vous Patrick Lang. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale aux éditions jésuites. Quel était le premier titre que vous aviez qui était très bon?
Il y en a eu plusieurs, mais... Le dernier,
rapprochez-vous du micro.
Je peux juste vous dire le dernier, c'était Un couple pour la vie, précisément.
Ouais.
C'était le même titre.
Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux, puisque vous savez que cette émission a été enregistrée sur la chaîne YouTube de la maison. Voilà, demain, nous vous parlerons de théâtre avec les chroniqueurs que vous aimez tant, Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui. Mais ça, c'est pour demain. Je vous souhaite une bonne journée. Attention, il fait froid, couvrez-vous, je vous embrasse.